Le numéro 2 du Vatican, le cardinal Parolin, a assuré que le pape n'avait aucune intention de quitter sa charge.
Merci Cécile Mérieux.
RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour.
En présence de Jean-Pierre Denis, journaliste écrivain, et d'Henrik Lindel, journaliste à l'hebdomadaire, l'avis, après avoir parlé donc du port du voile dans le sport, on va parler d'un autre événement qui est prévu bientôt. C'est la conférence évêques de France avec l'assemblée plénière des évêques qui est prévue du 31 mars au 4 avril prochain. L'épiscopat français se prépare à élire son nouveau président. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort a tenu un certain nombre de propos dans les pages de La Croix en particulier. Nous catholiques sommes consubstantiels à l'histoire de France dans les périodes de grande ferveur et celle de refus de Dieu, c'est-à-dire une croix, une ressource. Je porte assez fortement l'idée que l'âme française est catholique, a dit l'actuel donc, secrétaire général des évêques qui tient lieu donc de représentant de la conférence évêques en France. Alors peut-être peut-on discuter cette phrase, Henrik Lindel et Jean-Pierre Denis. Jean-Pierre ?
Mais consubstantiel, là on est carrément dans la théologie. Hein.
On est loin de la laïcité dont on parlait tout à l'heure.
Parce que c'est, vous savez que le débat sur consubstantiel n'ont pas cessé depuis l'époque des grands conciles. Qu'est-ce que veut dire ce mot ? Nous sommes à la fois des personnes distinctes et en même temps de même nature, si je comprends bien, que la société française, c'est assez juste, puisque comme disait, je crois, Dionysiette, le chrétien est du monde sans en être. Donc c'est une formule, voilà, c'est un mot difficile, mais qui dit quand même quelque chose de fort. Voilà, je trouve ça intéressant et je partage assez ce point de vue, évidemment.
Henrik Lindel.
Je peux dire que je le partage, mais je comprends ceux qui risquent d'être un peu surpris. L'âme française est catholique. Ça ressemble à cette idée selon laquelle la France est la fille aînée de l'Église. Il y a quelque chose d'identitaire là-dedans. Alors, c'est tout à fait normal d'évoquer effectivement l'histoire factuelle de la France, qui sont à l'aise avec ce type de marqueur identitaire. Ben, ils vont être contents, les autres un peu moins. En tout cas, moi je trouve que c'est un langage nouveau, on va dire ça comme ça, parce que je ne l'ai pas vu à ce niveau-là jusqu'alors. Souvent les évêques français, surtout des responsables de la conférence épiscopale, tenaient à dire que le catholicisme est un élément important de la France, mais est un élément parmi d'autres. Là, ce n'est pas tout à fait ce qu'on entend.
Oui, ça ne relativise pas la position.
Ça ne relativise absolument pas.
Mais, je veux dire, Peggy n'aurait pas dit le contraire. Enfin, c'est assez... C'est, comment dire, vérifiable à l'échelle de l'histoire de France. Et j'ai envie de le relier à ce qui se passe depuis maintenant 3 ans, qui est ce renouveau des baptêmes. Je faisais un petit calcul. Donc, à peu près en 3 ans, le nombre de baptêmes d'adultes aura doublé en France. Il y a une espèce de mystère autour de ce qui est en train de se produire, puisque voilà, on perd à la fois des dizaines, on a perdu des dizaines de milliers d'enfants baptisés à la naissance, et on gagne des milliers d'adultes ou d'adolescents qui vont choisir d'être baptisés. Et on s'interroge tous sur le pourquoi de cet événement-là. Pas mal de prêtres ont constaté que lors de la messe des cendres, il y avait plus de personnes que d'habitude, et souvent beaucoup de jeunes, voire de très jeunes, qui étaient parfois venus en groupe. Alors, il y a...
Avec des cendres ostentatoires sur le front.
Il est prudent, en tout cas, de ne pas surinterpréter ce phénomène tant qu'on n'a pas encore suffisamment de recul. On est là sur 3 ans, donc on peut commencer à en parler, mais on n'a que des hypothèses. Mais peut-être que j'ai envie de le relier un peu à ce sujet. Il y a peut-être aussi la prise de conscience que justement, ce sujet qui était un petit peu tabou, ben oui, on est dans un pays chrétien, ressurgit, et qu'il y a une génération ou une partie de cette génération qui se le réapproprie et qui entreprend un chemin de retour à l'Église. Voilà, je dis ça avec beaucoup, encore une fois, de précaution, hein, parce qu'on n'a pas le recul, mais il y a peut-être quelque chose qui est de cet ordre-là, qui serait en train d'apparaître. Et du coup, le fait que le président sortant de la conférence épiscopale le dise, enfin le disent avec à sa manière, je trouve ça a un certain sens.
Et c'est une manière, en tout cas, c'est vrai, comme vous le disiez, Henrik, assez inédite. Hein. Vous parliez tout à l'heure, Jean-Pierre, de consubstantiel, mais quand on parle de l'âme française, qu'est-ce que ça veut dire en fait, l'âme française? Vous qui êtes suédois, Henrik, vous n'avez pas la même âme parce que vous êtes suédois?
On peut peut-être dire mais cela, mais parce que ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a une âme propre à telle ou telle nation. C'est le mot nation ici qui est intéressant, au même titre que l'âme. Il y a une identité liée à un peuple, peut-être à une langue, peut-être à une géographie, et certainement à une histoire. Cette identité, on l'appelle nationale. Elle revient dans le langage au niveau du président de la conférence des évêques, et le connaissant un peu, connaissant l'Église catholique en France en général, je ne pense pas qu'on puisse envisager un seul instant qu'il y ait des applications désormais tout à fait nouvelles et concrètes à ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire qu'on ne va pas revenir sur la laïcité, on ne va pas revenir sur les valeurs de la République. Or, la République a voulu créer une rupture dans l'histoire de France. Et je pense qu'il y a de plus en plus, j'entends autour de moi, et pas seulement chez les catholiques, qu'il faut voir la France comme un pays qui est né avant la Révolution et qui a une continuité malgré la Révolution.
Donc c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire renouer avec le temps long de l'histoire, par-delà la Révolution et la République. Mmh. Jean-Pierre Denis.
Mais c'est important de renouer avec ce temps long. Moi, je vais vous faire une petite confidence. Je me souviens, il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, j'avais interviewé François Hollande dans la phase finale de la campagne qu'il a vue être élu président de la République. Et il m'avait dit cette phrase qui m'avait beaucoup... Vous m'avez surpris, il m'a dit « Un pays, c'est une âme ». Et ce qui m'avait après un petit peu déçu, c'est qu'il n'avait pas su, évidemment, mettre du contenu sur cette âme. Parce que justement, il butait sur ce problème, c'est quoi en fait l'âme de la France. Mais il avait senti que, alors évidemment, parce qu'il parlait à un journaliste catholique, certainement, donc c'était pas un hasard s'il avait employé ce mot qui... d'ailleurs n'appartient pas spécifiquement au vocabulaire religieux, mais qui en est venu à avoir une connotation religieuse aujourd'hui, il avait senti qu'il fallait employer ce mot. Vous voyez, c'est François Hollande qui, je pense, n'est pas ce qu'on appelait autrefois une grenouille de bénitier. Donc il y avait bien cette perception qu'il manque quelque chose, que voilà, dans le matérialisme ambiant, il y a quelque chose à définir, mais cette âme, évidemment, elle est composée, elle est composite, elle a aussi des états d'âme. Et ça serait peut-être pas mal de sortir de ces états d'âme pour se retrouver nous-mêmes. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose.
Mais n'est-ce pas prendre de front la réalité multiculturelle, la logique diversitaire à laquelle la France, dans laquelle la France semble engagée depuis quand même quelques décennies, Henrik Lindell, quand on dit l'âme, c'est exclusif, non?
Bon, je pense que ça répond justement à ce phénomène qui est une certaine... liquidité, comme on parle, comme on dit parfois, de cette société où tout change et où personne ne semble vraiment avoir pouvoir se faire une idée de cette globalité qui est tellement changeante. Dans ce contexte-là, on a besoin, humainement besoin, de retrouver quelque chose qui est de l'ordre du solide, aussi de la continuité historique. Aussi d'une certaine historicité et aussi quelque chose qui relève du spirituel. Et là, je suis en train de résumer en fait les caractéristiques de l'Église catholique. Et en France, elle est là depuis très longtemps, depuis 1500 ans à peu près. On est d'accord, monsieur, madame? Ça fait longtemps, hein. c'est une vieille institution déjà. Et elle a forgé des mentalités durant plus de 1000 ans. Elle correspond assurément à une identité culturelle partagée encore aujourd'hui, malgré la sécularisation, malgré tout ce que vous voulez. Moi, je note que beaucoup de jeunes catholiques, notamment ceux qui viennent à la foi, qui viennent à l'Église, ont besoin de repères, ont besoin de savoir d'où ils viennent en quelque sorte. D'où vient, pas seulement l'Église catholique, mais d'où vient ce pays, avoir une... Ils ont besoin de solide. Et l'Église catholique peut satisfaire ce type de besoin.
Et puis, mon cher Louis, si on examinait votre âme avec un instrument très particulier que je ne connais pas, et je ne souhaiterais pas évidemment être présent, car ce serait peut-être un petit peu intrusif, mais peut-être qu'on découvrirait qu'elle est complexe. Je parlais de la mienne, moi je suis un homme, je suis catholique, je suis français, ma mère est juive. Vous voyez, dans une âme, il y a beaucoup de choses qui entrent en fait. Et c'est pas faire offense à qui que ce soit que de considérer que le christianisme est vraiment très important dans l'âme de notre pays. C'est une réalité objective, je dirais même. Voilà, ce n'est pas exclusif. Il y a d'autres éléments qui rentrent en compte dans cette âme qui est en effet composite, parce qu'on est déjà un peuple composite avec des expériences historiques, des rapports à la religion différents. Peut-être que les Lumières font aussi partie de l'âme de la France. C'est pourtant un mouvement qui n'a pas grand-chose à voir avec le christianisme, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça fait aussi partie de l'âme de la France, l'esprit des Lumières. Donc voilà, moi je pense que c'est bien de... Enfin, c'est pas renverser la table que d'affirmer que le christianisme fait partie de l'âme de la France. À mon sens, il est vraiment au cœur, en fait, du meilleur de ce qu'a été l'histoire de la France. Enfin, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs tellement... communier autour de la restauration de Notre-Dame, hein. C'est pas seulement des pierres, c'est une histoire humaine et spirituelle, donc c'est bien.
Jean-Pierre Denis, Henrik Lindel, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort prononce cette phrase au moment où il va quitter ses fonctions. Est-ce que c'est pour vous une forme de testament ou une forme de recommandation qu'il laisse à son successeur, sachant que son mandat a surtout été dominé par les questions d'abus sexuels et de repentance ecclésiastique? On est quand même assez loin de la thématique qui a pu dominer l'activité qu'il a pu avoir, dont on sait qu'elle a connu des points assez marquants, le rapport de la SIAZ, par exemple. Henrik Lindel.
Oui, bien sûr. Éric de Moulin-Beaufort a vécu des moments extrêmement éprouvants pour toute cette institution qu'il représente en tant qu'archevêque et en tant que président de la conférence des évêques. Des moments historiques, en fait, parce que rarement l'Église a été autant mise en cause, rarement elle a été obligée de demander pardon, prendre des mesures contre toute une culture de silence, par exemple. Et Éric de Moulin-Beaufort est la personne qui a dû formuler toute une nouvelle politique, entre guillemets. Et donc, il est dans cet entretien dont vous avez parlé, où il a parlé de l'âme française qui est catholique, etc. Il a surtout parlé de ces scandales interminables de violences sexuelles dans l'Église. C'est ça qu'il a vécu. Et comment gérer, comme on dit, cette blessure infligée au corps du Christ. Et c'est ça qui marque ces deux mandats. Et ce deuxième mandat qui se termine maintenant. Donc tout le monde se demande, mais qui pourrait éventuellement lui succéder?
Jean-Pierre Denis.
Alors pour moi, c'est vraiment, il fait partie de ce qu'on pourrait appeler la génération sacrifiée. C'est-à-dire qu'il a... voilà, on peut imaginer que ce n'était pas du tout son rêve que de présider une institution qui était enfin, je dirais trop tardivement évidemment, amenée à reconnaître la réalité du scandale des abus sexuels. Il l'a fait avec courage. Il n'avait pas toujours les mots pour le faire comprendre médiatiquement, mais ce n'est pas à mettre à son débit. Voilà, c'est quelqu'un qui a, je crois, beaucoup travaillé. Sérieusement, activement, pour nous sortir de cette ornière. Évidemment, on en est sorti, comme on le voit d'ailleurs avec l'affaire de Bétarame, mais il a vraiment courageusement pris ses responsabilités. C'est pas très glamour, mais je trouve qu'il a un très très bon bilan. Voilà, c'est justement si on peut recommencer, ses successeurs peuvent parler davantage du christianisme dans l'âme de la France, enfin, peut-être parce qu'on aura avancé sur ces sujets-là et qu'on en sera pas complètement débarrassé, mais qu'on aura quand même pas mal avancé ces 10 dernières années. Donc, c'est, je trouve, un bilan plus qu'honorable pour un président de conférence épiscopale. Et quand on regarde, puisque j'ai le regret de regarder cette institution maintenant depuis longtemps, enfin, j'ai le regret parce que les années commencent à passer, mais je trouve qu'il fait partie de ceux qui ont vraiment agi et pas simplement géré le déclin. Donc c'est un bon bilan.
Est-ce que vous voyez des noms pour lui succéder, Jean-Pierre, d'ailleurs ?
Alors moi, je ne suis pas dans les petits secrets de l'institution, donc je ne peux pas répondre à cette question.
C'est un poste difficile quand même, parce que c'est un poste où il faut arbitrer aussi entre...
Oui, je pense qu'aussi...
Entre toutes les sensibilités de l'Église, non ?
Oui, c'est une sorte d'institution un peu bizarre, en fait. C'est pas une institution comme celle de l'évêque, ou celle du prêtre, ou du diacre, d'ailleurs. Et encore moins comme une... C'est pas un gouvernement, en fait. Et parfois, j'ai l'impression, quand on se parle comme ça entre nous qui sommes journalistes, notamment, on fait comme si c'était un gouvernement, comme si on allait choisir un nouveau Premier ministre. C'est absolument pas le cas. Hein. Moi, j'ai lu dans les documents de l'Église que l'objectif de la conférence des évêques, c'est un objectif de collégialité. Parce que, de fait, les évêques sont rarement d'accord entre eux sur tout. Hein. Il y a plein de divisions, hein, et on les sait, on les connaît, entre les évêques. Et la conférence des évêques a aussi un rôle de représentation auprès des pouvoirs publics. Voilà les deux fonctions, hein, qui relèvent pas tellement de la théologie des ministères de l'Église catholique.
Il n'y a pas de statut canonique.
Voilà, absolument. Ça ne fait pas partie, je crois, du droit canonique, d'ailleurs. Et chaque évêque garde son entière compétence. Hein. Donc, il faut aussi essayer de relativiser. Hein. Ce n'est pas si important que ça, hein, son rôle en tant que président.
Le défi, c'est d'arriver à faire travailler ensemble.
C'est qu'il parle au nom.
Voilà, il parle au nom.
Il fait comme s'il devait parler un peu au nom de toute l'Église en France.
Oui, mais le risque dans ce type de responsabilité, c'est de ne rien faire, voilà, pour ne fâcher personne. Or, justement, il a agi, et je trouve que c'est assez remarquable d'avoir agi sans que, ces divergences qui sont bien réelles, qui existent et qui sont saines entre les différentes sensibilités de l'épiscopat, comme elles existent parmi tous les catholiques, prennent le dessus. Donc, c'est une tâche presque impossible, parce que président de la conférence épiscopale, il est quelque part, c'est d'abord un super secrétaire général d'une institution dans laquelle chacun fait, comme l'a rappelé Henrik Lindel, fait quand même un petit peu ce qu'il veut. Voilà. Donc arriver à faire avancer les choses dans ce contexte-là, avec cette mécanique-là, c'est déjà très bien.
Dans ce contexte de crise, pour toute l'Église, Éric de Molins-Beaufort a vraiment été utile en tant que président pour parler au nom de l'Église en France.
On aura l'occasion de faire le bilan avec lui, sans doute. Hein. On lancera bien sûr une invitation lorsque la chose se présentera, et c'est bientôt, puisque c'est à partir du 31 mars et jusqu'au 4 avril prochain que l'Assemblée plénière se tient. On va parler à présent de J.D. Vance, le vice-président américain. Vous savez, son discours de Munich qui avait beaucoup marqué les esprits et les observateurs, c'était il y a un mois. Et ce discours qui s'adressait à l'Europe, hein, c'est une conférence sur la sécurité, mais finalement, il a assez peu parlé de sécurité. Il a parlé, en revanche, de ce qui concernait les Européens et de la menace intérieure que les Européens subiraient par rapport à la menace extérieure, qui est en particulier désignée sous la forme de la Russie. Henrik, vous avez fait une enquête pour savoir un petit peu comment situait J.D. Vance, le catholicisme de J.D. Vance, sachant que Joe Biden lui-même aussi était catholique. Et donc, ça amène peut-être un certain nombre de réflexion pour savoir un petit peu ce à quoi s'attendre déjà.
Bon, déjà, pourquoi s'intéresser à J.D. Vance ? D'abord parce que c'est pas n'importe quel vice-président. Il est très jeune en tant que vice-président, 40 ans. Il est manifestement très dynamique. Il est le vice-président d'un vieux président qui normalement devrait faire son dernier mandat. Sauf s'il change la constitution, hein. Donald Trump en est parfaitement capable. Mais normalement, il devait y avoir des élections en 2028. Et Et J.D. Vance est quelqu'un qui pourrait tout à fait prétendre à devenir le futur candidat pour son parti. Et il a un rôle qui dépasse largement celui qui est donc celui de vice-président habituel. C'est une fonction normalement assez discrète. Hein. On se souvient par exemple de Kamala Harris, qu'on ne voyait pratiquement pas pendant 3 ans et demi. Il est sur toutes les scènes mondiales. Il parle au nom de l'Amérique pour sermonner l'Europe à Munich, pour dire que l'Europe ne respecte pas la liberté d'expression, que l'Europe doit se méfier de l'immigration de masse. On le voit même engueuler Vladimir Zelensky dans le bureau ovale avec le président Donald Trump. Il occupe une place absolument énorme par rapport à son statut habituel. Donc J.D. Vance est par ailleurs catholique, et pas qu'un peu. Il n'est pas catholique comme Joe Biden. Il ne pense pas qu'il faille absolument subordonner le catholicisme aux politiques. Il dit au contraire qu'il veut que dans les politiques, il veut qu'on puisse voir la doctrine sociale de l'Église. Ça va nous surprendre, d'autant plus que nous savons que sur l'immigration, il est d'une dureté extrême. Et nous avons beaucoup de mal, en tout cas moi, à associer cela à du catholicisme. Mais dans d'autres domaines, notamment le domaine familial et le domaine, de la protection des ouvriers américains face à des menaces qui viennent de l'extérieur, des menaces économiques, pour défendre aussi toutes les classes qui se sentent déclassées et abandonnées par les élites politiques, ces classes souvent un électorat populaire hein, dont il est issu lui-même et qu'il incarne en ce sens-là. Et on peut parfaitement trouver des traces, on peut dire, catholiques. Il dit lui-même qu'il veut une politique qui vise le bien commun. Donc il sort un peu du schéma libéral habituel. Il ne parle pas tellement d'individus, il parle du collectif, il parle de la nation. Nous pouvons y lire une forme de nationalisme, nous pouvons certainement y lire une forme de populisme, mais nous devons aussi y lire ce qu'il pense, lui, être une forme de catholicisme. Un catholicisme qui est celui d'un néo-converti, ou converti, il s'est converti en 2019, donc il n'y a pas longtemps, à l'âge de 35 ans, visiblement ébloui par l'intelligence dans l'Église catholique. Il s'inspire beaucoup de Saint Augustin, qu'il a manifestement lu. Il s'inspire beaucoup de Saint Thomas. On l'entend pas tellement parler du Concile Vatican II, mais ça viendra peut-être. Il est entouré par des gens qui sont un peu comme lui, qui sont souvent convertis, qui sont très conservateurs, qui sont assez jeunes, qui sont très bien formé dans les universités d'élite, donc il représente quelque chose de nouveau.
Quand vous dites converti, Henrik, est-ce qu'il vient du protestantisme ? Est-ce qu'il y a...
Alors, son parcours personnel est très compliqué.
En un mot.
Donc, il est né plutôt dans un contexte évangélique. Ensuite, il a été athée pendant quelques années lors de ses études, avant de découvrir, comme il dit, l'intelligence de la foi dans l'Église catholique.
Jean-Pierre Denis, en quoi la figure de J.D. Vance nous intéresse-t-elle ? Et si on doit faire une symétrie avec les propos de Mgr de Moulin-Beaufort sur l'âme française et ce côté réaffirmatif, est-ce qu'il représente aussi, à sa manière, une forme de réaffirmation ?
Oui, je crois que la comparaison serait quand même très audacieuse. Ce que vient de dire Henrik est très intéressant et assez, je dirais, nuancé. Moi, j'étais très choqué, oui, par la scène avec Zelensky dans le bureau ovale, où j'avais l'impression d'assister à un comportement quasiment mafieux, enfin de deux hommes, Donald Trump et J.D. Vance, qui humiliaient. C'était une scène vraiment préparée et montée, qui était une mise en scène d'une humiliation qui me posait problème. J'ai du mal à réconcilier ça avec le portrait que vient de faire Henrik Lindell. Voilà où j'en suis. J'ai du mal à réconcilier le catholicisme, que évidemment je n'ai pas de raison de ne pas croire sincère, avec un discours qui a des éléments, je crois profondément inquiétants, contre finalement, quand il accuse... que d'un côté, il accuse les Européens de limiter la liberté d'expression. qu'on est quand même dans des pays où il y a une grande liberté d'expression, mais que de l'autre, on voit que aux États-Unis, ce courant qui s'est battu à juste titre contre la cancel culture et donc pour la liberté d'expression aujourd'hui est en train de mettre au pas, de museler cette liberté d'expression avec voilà, des milliardaires qui prennent le contrôle des grands médias comme le Washington Post, les institutions, les universités qui ont peut-être besoin qu'on y mette de l'ordre, mais qui sont complètement mises au pas, des chercheurs qui sont aujourd'hui très inquiets, qui n'osent plus s'exprimer. Bon, j'ai du mal à réconcilier tout ça. Alors vous pouvez me dire, oui, mais vous aviez sûrement du mal à réconcilier le catholicisme de Joe Biden et ses positions sur l'avortement. En effet, parce qu'on n'est jamais complètement... c'est toujours le problème d'ailleurs, on n'est jamais complètement, entièrement, complètement à l'aise avec des choix politiques par rapport à la doctrine sociale de l'Église. Mais là, il y a quand même quelque chose qui est une énigme, mais en tout cas, c'est un sujet qu'on fait à peine que commencer à explorer et qui est très important parce qu'effectivement, dans quelques années, bah, il y aura un autre pape, il y aura un autre président des États-Unis, et cet autre président des États-Unis pourrait bien être Vance. Puisqu'il est programmé pour succéder à Donald Trump si c'est un républicain et s'il y a une succession de Donald Trump.
Et d'où l'intérêt d'en parler donc. Merci beaucoup à tous les deux. Je renvoie à l'enquête menée par Henrik Lindel dans les pages de l'hebdomadaire La Vie, et que je remercie. Et puis bien sûr, merci beaucoup à Jean-Pierre Denis, journaliste, écrivain, de nous accompagner aussi au fil de ce débat pendant une heure. Vous savez, c'est le principe entre 9h et 10h tous les matins. Et puis vous pouvez participer. Alors on a reçu pas mal de messages sur le port du voile dans le sport. Malheureusement, on n'a pas pu tous les écluser. N'hésitez pas à intervenir assez tôt dans la discussion, de sorte qu'on puisse évidemment vous donner la parole. Merci à tous et bonjour Melchior Gormand. Et donc c'est Melchior qu'on retrouve, allez, à 10h, qui vous accompagne pour Je pense donc j'agis.